Nos jeunes aiment le luxe, ont de mauvaises manières, se moquent de l'autorité et ont aucun respect pour l'âge. À notre époque, les enfants sont des tyrans.
Merci. Alors, est-ce que vous pourriez me dater cette citation? Attendez, je vais... Alors, si vous avez déjà vu la date, qu'on voit, tu peux la remettre, la petite surprise. Effectivement, on voit que ça vient de 400 ans avant Jésus. Qui aurait pensé que quelqu'un aurait dit ça 400 ans avant Jésus? Et on aurait pensé que cette citation collerait bien avec l'époque d'aujourd'hui, n'est-ce pas? Nous, en tant que chrétiens, nous aspirons à ressembler à Christ. Nous devons donner de l'amour à la manière de Christ, à notre manière, à la manière de Christ. Si Christ était là physiquement, de nos jours, que dirait-il aux jeunes d'aujourd'hui? Comment se comporterait-il avec eux? Je vais vous lire un passage dans Matthieu 5, verset 7, qui dit: Heureux ceux qui ont de la compassion pour autrui, car Dieu aura de la compassion pour eux. Et le verset 9 plus bas nous dit: Heureux ceux qui créent la paix autour d'eux, car Dieu les appellera mes fils. Alors est-ce que nous avons envie que Dieu nous appelle ses fils? Parce que des fois, nous nous arrêtons sur des choses un peu futiles, avec ou sur des artifices. Nous n'oublions pas que c'est Dieu qui change les cœurs et que c'est le Saint-Esprit qui convainc de péché, de justice et de jugement. Il ne faut pas que notre amour pour les jeunes ni pour les autres dépend d'un style vestimentaire ou d'une coupe de cheveux ou une coupe de cheveux qui correspond à nos propres valeurs. Car Dieu regarde au cœur. Parce que dehors, le monde est prêt à les accueillir tels qu'ils sont, à leur manifester de l'amour et surtout à leur faire vivre des expériences bizarres. Et vraiment des expériences bizarres. D'accord? Et le monde... Est-ce que le monde va leur demander de se transformer? Le monde va les transformer à leur image, surtout. Alors que c'est notre responsabilité de leur annoncer Christ qui les transformera à son image. Une église avec des jeunes est une bénédiction. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça?
Amen.
Dans la Bible, nous avons deux exemples de jeunes. Nous avons Joseph et nous avons David, par qui les bénédictions sont arrivées, soit pour le peuple ou soit pour les familles. Hébreux 12, 15 nous dit que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Je vois qu'il y a des gens qui le savent. Donc, parfois, nous prions pour avoir de la patience ou de l'amour. Où nous voulons aider, nous disons, ouais, comment Dieu, je peux aider quelqu'un. Et en fait, la réponse à ta prière, c'est peut-être ce jeune qui est là. Ce jeune que tu dois supporter malgré ses attitudes qui te choquent. Parce que nous savons tous, quand dans Ésaïe 53, il dit, que le bras de Dieu ne semble pas pour la vie. Donc nous ne pouvons pas savoir comment la réponse à notre prière va arriver. Et des fois, nous pouvons passer à côté juste d'une bénédiction parce qu'on s'est arrêté à un préjugé. Comme l'a si bien dit notre pasteur la semaine dernière, et qui a eu cette expérience aussi par rapport au préjugé. Donnons-leur et donnons-nous de l'amour vrai. Certains sont amenés à partir faire des études, à connaître notre monde, se faire ou aller dans d'autres églises. Ils peuvent se retrouver dans des églises où il y a un mauvais témoignage et qui n'ont pas connu le véritable, le vrai amour. On devait leur donner, leur inculquer pendant la période qu'ils étaient ici avec nous. Donc ils peuvent se faire embobiner et partir dans des vraies pratiques sans connaître vraiment l'amour de Dieu. Dans Néhémie 2,18, il nous dit, et je leur racontai comment la main de Dieu avait été sur moi et quelles paroles le roi m'avait adressées. Ils dirent, levons-nous et bâtissons. Et ils se fortifièrent dans une bonne résolution. Donc ce que je demanderai aujourd'hui, c'est que nous puissions nous lever et que nous puissions bâtir avec nos jeunes, que nous puissions nous lever en ce matin et prier avant le moment d'échange, de partage qu'ils auront à nous présenter. Père Tout-Puissant Éternel, tu nous vois ce matin, tu vois les cœurs, les pensées de chacun d'entre nous. Seigneur Dieu, ce matin, je te demande de briser toutes les forteresses que nous aurons dans le cœur, toutes les valeurs, Seigneur Dieu, toutes celles, les choses, Seigneur, qui ne doivent pas être dans notre cœur. Je te demande de les briser, Seigneur, en Dieu, dans ton fils Jésus, et permettre, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que nous puissions être tout ouverts à ce qui va être dit par ce jeune. Seigneur, car nous ne voulons pas passer aujourd'hui à côté de ta grâce. Merci, Seigneur, mon Dieu, de nous bénir et de bénir chacun de ceux qui vont intervenir ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, j'espère que vous avez chacun un petit fascicule, c'est bon? Non? Vous levez juste la main, ça va, on va passer vous amener. Merci.
Bonjour.
Bonjour.
Est-ce que tout le monde va bien?
Oui.
Ah, merci Seigneur. Alors, avant de passer au temps de partage, on va vous inviter à participer pour que vous puissiez deviner quel est le thème lequel nous allons partager. Donc, je vais vous inviter à participer à un quiz. Donc, je vous expliquerai. Enfin, les règles sont très simples. Il y a 10 questions en rapport avec les histoires de l'Ancien et du Nouveau Testament. Et en fait, à chaque question, je vais demander aux 5 premières personnes qui vont lever la main leur réponse. Ensuite, on vérifiera s'ils ont répondu. Donc, je rajoute aussi que pour les questions les plus compliquées, il y a quelqu'un qui trouve une question compliquée, chaque personne a droit à un indice maximum pour tout le quiz. Vous avez compris? Tout le monde a compris, vous êtes sûr? Ben, on peut commencer avec la question 1. Quel personnage du Nouveau Testament donne son nom à la religion chrétienne? L'auteur du 28e livre de la Bible. Pas d'autre riche. On vérifie. Quelle est la réponse étant donné que avant nous a tué. Voilà, bravo Laurine. de la Bible est considéré comme l'un des principaux vecteurs de la reconstruction de la muraille de Jérusalem. Attendez, on va tout d'abord. C'est pas le grand premier. Néhémie à Charles 3. Très bien, bravo. Ensuite, on continue avec la question 4, où je vais vous demander de compléter le verset qui dit, Jésus lui dit, moi, je suis le chemin et la vie. Eh bien, bravo à vous, hein, encore une fois. Question 5, encore une fois, vous devez compléter le verset. De même, votre foi, beaucoup plus précieuse, est mise à l'épreuve afin de prouver sa valeur. C'est ainsi que vous pourrez recevoir louange, gloire et honneur quand Jésus-Christ apparaîtra. Très bien. Donc là, on a déjà fait plus de la moitié. On passe à la question 6. Quel personnage a failli être sacrifié par son père biologique?
Isaac.
Question 7. Quel livre de l'apôtre Paul ne contient qu'un seul chapitre? Non. Oui. Sa réponse, bravo à nous. De quel pays Salomon était le roi? Israël. Alors, on va passer à l'avant-dernière question. Cette fois-ci, vous levez la main. C'est une question un peu difficile. Qui est la mère d'Isaac? Oui.
Déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur.
Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Car il est avantageux pour toi que seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi. Car il est avantageux pour toi que seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne.
Et ainsi, Marie-Louise. Alors, ne fais pas gros les yeux parce que je me fie au sexe, qu'on voit 10 femmes. Je sais que c'est mon homme. Alors, bien évidemment, Dieu nous encourage à parler de sexe à l'église parce que pour nous montrer que c'est très dangereux. Alors, dans Matthieu 5, verset 28, Jésus nous dit « Quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. » Dans l'exemple du roi David, sa convoitise envers Bathsheba l'a poussé au meurtre de ses plus vaillants soldats. Le roi David se rendit coupable d'adultère. Alors oui, à ce moment-là, vous pouvez me dire, mais oui, c'est ça, je ne vais pas tomber dans le péché, c'est trop facile pour moi. Il ne faut pas se croire extrêmement saint et dire qu'on ne peut pas chuter. Dieu nous montre dans sa parole que personne n'est invulnérable. Encore dans l'exemple de David, on voit qu'après avoir passé la plus grande partie de sa vie à servir Dieu fidèlement, il commet une succession de péchés. David se rendit coupable d'adultère avec Bathsheba, la femme de lui. De meurtre, de mensonge, de manipulation, ne reculant devant rien pour cacher son péché et protéger sa réputation. Donc, quand nous voyons une femme et que nos yeux sont particulièrement attirés, détournons le regard pour ne pas rester là avec de la salive dégoulinée de notre jeu. Le Seigneur invite chaque chrétien à connaître ses propres limites et ses faiblesses pour pouvoir agir avec sagesse. Matthieu 5, verset 29 dit: si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne. Donc faisons attention avec ça. Maintenant, voici un autre exemple. Dans le cas de la luxure, si vous observez que votre voisin arrive avec une perte bleue et dernière génération et que vous n'avez que la plus jolie sensation qui vous attend dans votre garage, bien évidemment, vous pouvez dire: ah, mais Seigneur, j'aurais bien aimé avoir cette PM-là. Au voisin que tu donnes ça et pas à moi, tu nous dis demander et vous recevez. Seigneur, je t'en prie, fais-moi la même double dans le garage. Si vous priez comme cela, il y a un gros problème. On ne doit pas avoir les yeux plus gros que le vôtre. Alors, si vous savez que vos yeux sont pour vous une occasion de chute et que vous avez de mauvaises pensées qui vous font pécher, évitez de vous retrouver dans des situations où ce sera difficile pour vous de résister. En conclusion, comme je l'ai répété, je vous ai cassé les oreilles avec ça. Dieu nous demande de nous débarrasser de ce qui nous fait tomber dans le péché. Nous avons plus d'intérêt à voir que c'est seulement avec Jésus que nous sommes forts. C'est lui qui nous aide à fuir la tentation. Nous voulons vivre avec Dieu et faire sa volonté. Nous devons donc demander à Jésus de l'aide et faire tous nos efforts pour vivre comme il le veut en résistant à toute forme de tentation.
un peu ignoré. Et j'ai commencé à...
Pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font, dans Luc 23, verset 24. dans la Bible, nous trouvons bien des exemples de personnes qui, eux aussi, ont pu faire preuve d'amour envers leurs ennemis. Prenons le cas de Joseph dans Genèse 37, versets 23 à 27. Et je vais demander aussi à quelqu'un de le lire pour moi. Donc, Genèse 37, versets 23 à 27. Genèse 37, versets 23 à 27.
Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils le déprièrent et le saluèrent à Philippe de la Philippe de tout ce que leur avait dit. Ils le prirent et le jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide, il n'y avait pas d'eau.
Ils s'assirent ensuite pour manger. Ayant levé les yeux, ils virent les caravanes d'Israélites venant de Galade. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baume et de mire, qu'ils transportaient en Égypte. Alors Juda dit à ses frères, Quand gagnerons-nous à leur tuer le prophète et à cacher son sang? Venez. Vendons-le aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair. Et ses frères l'écoutaient. Au passage, les marchands madianites, ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne et ils le vendirent pour 20 cycles d'argent aux Ismaélites qui l'emmenèrent en Égypte.
Merci. Donc, Joseph, il a été vendu aux Ismaélites, donc il a souffert à cause de ses frères. Il était triste et il se sentait abandonné par ses frères. Mais dans Genèse 50, versets 15 à 21, donc si quelqu'un peut bien le lire pour moi aussi. Genèse 50, versets 15 à 21.
Les frères de Joseph virent que leur père était mort. Ils dirent, si Joseph,
nous venons, nous prenait en haine et nous rendait tout le mal que nous lui avons fait. Et ils firent dire à Joseph, ton père a donné cet ordre avant de mourir. Vous parlerez ainsi à Joseph. Oh, pardonne les crimes de tes frères. Et leur péché, car ils t'ont fait du mal. Pardonne maintenant le péché des serviteurs de Dieu, de ton père. Joseph pleura en entendant ces paroles. Ses frères vinrent eux-mêmes se prosterner devant lui et ils dirent, nous sommes tes serviteurs. Joseph leur dit, soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu? Vous avez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Soyez donc sans crainte. Je vous entretiendrai, vous et vos enfants, et il les consola en parlant.
Merci beaucoup. Donc, on nous dit que Joseph, il n'a pas eu de rancune. Il aurait pu se venger et rendre le mal que ses frères lui ont fait. Mais au contraire, Joseph pardonne ses frères et se rend compte qu'à travers le mal qui lui a été fait, Dieu a sauvé son peuple. Dieu a transformé le mal en bien. Le pardon de Joseph se voit aussi dans ses actes. En plus de les avoir pardonnés, il ajoute qu'il va pouvoir à leurs besoins et à ceux de leurs enfants. Joseph n'est pas resté figé sur le passé. Dans le texte de 1 Samuel 24, donc on va pas le lire cette fois-ci, on peut voir également la réaction de David face à son ennemi Saül. Lorsqu'il a eu l'occasion de tuer son ennemi, David lui coupa juste le pan du manteau. Il dira à ses hommes, « Que l'Éternel me garde de commettre contre mon Seigneur, loin de l'Éternel, une action telle que de porter la main sur lui. » Au verset 7. La Bible ajoute au verset 8, « Par ces paroles, David arrêta ses gens et les empêcha de se jeter sur Saül. » C'est aussi ce que David expliqua à Saül au verset 12 et 13. Il aurait pu le tuer, mais il laisse Dieu être le juge entre lui et Saül. L'Éternel me vengera de toi, mais je ne porterai point la main sur toi. Après cela, Saül reconnaît que David a été juste et il ajoute, « Que l'Éternel te récompense pour ce que tu as fait pour moi aujourd'hui. » Il est vrai qu'aimer ses ennemis, prier pour eux, ce sont des choses difficiles. On peut se dire, elle n'a pas changé ou encore, elle va encore me blesser. Mais Jésus veut que nous apprenions à faire preuve d'amour, de sagesse, de bienveillance, même quand c'est difficile. Parce que lui, il est un Dieu d'amour, un Dieu sage qui use de bienveillance envers nous. Mais comment faire? Premièrement, nous pouvons compter sur l'aide de Dieu. Matthieu 7, verset 7 nous dit « Demandez et vous recevrez ». Nous pouvons lui demander de nous donner la patience et l'amour pour nos ennemis. Et comme Dieu l'a fait pour Joseph, nous pouvons lui demander de changer le mal en bien. Deuxièmement, nous pouvons nous appuyer sur les exemples qui sont dans la parole de Dieu, comme Joseph ou David. En étudiant le cas des hommes de Dieu, nous verrons comment ils ont fait. Mais pour cela, nous devons prendre le temps de lire la Bible. Troisièmement, nous pouvons demander conseil aux personnes qui sont dans notre famille spirituelle. Mais à votre avis, qu'est-ce que cela va nous apporter? Pour moi, j'apprends à compter sur Dieu. Grâce à lui, je suis capable de faire des choses qui sont difficiles, voire impossibles. Et pour l'autre, plus il me déteste, plus il me fait du mal, plus je l'aime. C'est quelque chose qui va l'étonner, voire l'impressionner. Ça pourrait le pousser à se demander comment je fais, et je pourrais ensuite lui parler de Dieu. Voilà ce que c'est que témoigner de l'amour de Dieu envers nos ennemis.
Il va raconter comment Dieu l'a changé et comment Dieu va l'utiliser et l'utilise encore aujourd'hui.
Qui a grandi dans une cité de région parisienne est devenu pasteur. Un parlait, lui qui n'a jamais tué, mais il volait et se droguait. Yannick Gauthier, un ancien braqueur, qui a grandi dans une cité de région parisienne est devenu pasteur. Un parcours étonnant et la rédemption de ce père de famille de 49 ans inspire aujourd'hui les milliers de fidèles. Reportage Dimitri Sikotakis, Inès Latrèche et Marie Le Crème.
C'est une joie, vraiment, dans ces temps difficiles de confinement, que de pouvoir nous réunir ensemble dans la présence de Dieu,
En temps normal, l'église aurait été pleine. Certainement 200 fidèles, bien égoutés, captifs et fascinés. Ce dimanche, ils sont tout de même une centaine à l'écouter.
Vas-y, qui serait là aujourd'hui? Depuis 4-5 ans, je crois que j'avais ce désir de le rencontrer.
À 49 ans, Yannis est un pasteur au succès grandissant, 250 000 followers sur Facebook.
Je ne sais pas quelle ambition il y a sur ton cœur concernant ton avenir, mais j'aimerais te donner deux conseils.
Mais tu n'as pas toujours été ce prédicateur respecté, ce pasteur évangélique.
Que Dieu vous bénisse, je vous aime.
Au départ, il en était même aux antipodes. La Courneuve, en Seine-Saint-Denis, c'est dans cette ville que Yannis a grandi.
Si je me trompe pas, c'était cette rue-là.
Un quartier rempli de souvenirs.
Avec mes camarades, on jouait au foot. Puis aussi, parfois, il y avait des petites bagarres, il fallait se faire une place, il fallait se faire respecter. C'était pas toujours facile, mais j'en garde des très bons souvenirs.
Mais certains sont encore douloureux. Ici, au cœur de la cité des 4000, Yannis sympathisant, un de ses amis est abattu sous ses yeux par un voisin, mécontent de lui.
Ça a été un élément déclencheur. Pourquoi? Parce que à partir de là, je me suis enfermé dans mon quartier, dans cette ville. J'ai commencé mon étudiant.
Abandonné par ses parents, élevé par une belle-mère autoritaire et violente, le jeune Yannis multiplie les mauvaises fréquentations et tourne dans la drogue.
Je me suis mis à agresser des jeunes, à leur prendre parce que je ne pouvais pas m'acheter. Et je me suis fait arrêter.
Tout juste à l'eau, il découvre alors la prison et une autre école, celle de la délinquance. À peine sortie de détention, c'est l'escalade, le trafic, puis les braquages de banque. À 23 ans, retour derrière les barreaux.
C'est ma deuxième maison, j'ai envie de dire. Je la connais depuis gamin. Depuis que j'ai l'âge de 12 ans, je vais voir mon frère en prison, il a été 19 fois.
Son frère, au chemin tout aussi escarpé, qui perdra la vie à 30 ans, assassiné dans un restaurant. Yannis nous emmène au cimetière où il repose.
C'est un lieu où finalement, tout s'est fini pour moi et tout a commencé.
Il n'est pas revenu ici depuis une dizaine d'années et se souvient du choc, des envies de vengeance, mais surtout de sa prise de conscience.
Je pense que quand j'ai enterré mon frère, j'ai enterré une partie de moi-même. J'ai pris une décision, je préfère être un père pour mes enfants plutôt que d'être un soi-disant vengeur qui termine le cimetière. J'ai fait un autre choix de vie.
On retrouve Yannis chez lui, en Eure-et-Loire. Il est désormais un homme rangé, fier de son épouse Manu et de leurs 6 enfants.
Avec la vie chaotique et éternelle, j'aurais pas franchement cru que cela deviendrait possible.
Cette vie harmonieuse, il la doit en grande partie à Manu.
On se connaissait déjà, non?
Alors qu'elle est enceinte de leur troisième garçon, la jeune femme enchaîne les visites en prison. Pourtant, face à elle, au parloir, un homme qui la rejette.
Il faisait voir que sa dureté et rien d'autre. Mais les sentiments, il les gardait pour lui. Et moi, je voyais son cœur. Et je voyais qu'à l'intérieur, il y avait un potentiel, il y avait quelque chose.
Manu va prier pour que son mari retrouve la foi. Elle parvient à le mener vers l'évangélisme. Une rédemption que reconnaissent ses enfants.
Le fait de voir que aujourd'hui, presque devant des milliers de personnes, qu'il est suivi par des milliers de personnes, c'est honorable et je suis fier de lui.
Une autre fierté, c'est ce diplôme.
Voilà, le seul diplôme que j'ai eu dans ma vie.
3 années de cursus pour devenir pasteur évangélique, une religion issue du protestantisme qui représente un peu plus d'un million de croyants en France. Ce dimanche, Yannis, ou plutôt le pasteur Yannis Gauthier, est très attendu à l'église de la Citadelle.
Je suis heureux d'être avec vous ce matin.
Il intervient ici, comme devant d'autres assemblées dites de France, 2 à 3 fois par semaine.
Il est très apprécié, il est très aimé, parce que bon, il est dynamique, il est vivant, et puis surtout par rapport à son témoignage.
Donc, vous voyez, je pense que vous avez constaté que dans son témoignage, il a vécu beaucoup de choses. Il a été dans la drogue, il a vécu des braquages de banque. Donc, ça veut dire qu'il était vraiment au plus bas. Et au final, Dieu l'a utilisé. Jusqu'à présent, Dieu l'utilise toujours. à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vais vous parler des faux prophètes et autour du texte de Matthieu, chapitre 7, verset 15 à 20. Donc, est-ce qu'il y a un volontaire pour vous relire ce texte?
Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sous des épines ou des figues sous des charbons? Tout bon arbre porte de bons fruits. Et le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez.
Donc, dans le texte de Matthieu 7, le Seigneur décrit les faux prophètes comme étant vêtus en habits de brebis, et qui sont dans Dieu des loups voraces. Et pour cela, le Seigneur Jésus nous invite à nous méfier des faux prophètes au verset 15. L'on peut aussi prendre l'exemple des faux prophètes de Baal qui sont présents dans l'Ancien Testament et que vous pouvez trouver au texte de 1 Rois, chapitre 18, verset 22. Donc, est-ce qu'il y a bien quelqu'un qui veut lire ce passage? Chapitre 18, verset 22.
Et Élie dit au peuple : Je suis resté seul des prophètes de l'Éternel, et il y a 450 prophètes de Baal. Que l'on nous donne deux taureaux qui choisissent pour eux l'un des taureaux, qui le coupe par morceaux et qui le place sur le bois sans y mettre le feu. Et moi, je préparerai l'autre taureau et je le placerai sur le bois sans y mettre le feu. Puis, invoquez le nom de votre Dieu et moi, j'invoquerai le nom de l'Éternel, le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. Et tout le peuple répondit en disant, « Seigneur. » Élie dit au prophète de Baal, « Choisissez pour vous l'un des taureaux, préparez-le les premiers, car vous êtes les plus nombreux, et invoquez le nom de votre Dieu, mais ne mettez pas le feu. »
C'est bien ça. Merci beaucoup. Donc, à travers le texte de 1 Rois, chapitre, à travers le texte de Matthieu, Jésus veut nous parler aussi du bon et du mauvais arbre. Car le bon arbre produit du bon fruit et le mauvais arbre produit de mauvais fruits. Donc Jésus nous permet ici de faire la distinction entre les faux prophètes et les bons prophètes. On peut également prendre un exemple tiré du texte de 1 Rois, chapitre 22, où l'on remarque qu'il peut y avoir des prophètes de mensonges et des prophètes de vérité, tels que Michée. Les conséquences aussi du fait de porter du mauvais fruit entraînent la mort éternelle. Dans le texte de Galates, chapitre 5, verset 22, le Seigneur nous parle du fruit de l'Esprit, qui se manifeste par l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. Donc pour cela, afin de devenir un bon arbre, il faut mettre en pratique la parole de Dieu. Donc j'aurai à nouveau besoin de trois volontaires pour lire trois passages. Donc le premier, c'est Galates chapitre 6, verset 7 à 9.
Ne vous y trompez pas, ne sommes pas de Dieu. Ce que l'homme a semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas.
Merci. Et ensuite, il y a le texte de 2 Timothée, chapitre 22. 2 Timothée, chapitre 2, verset 22.
La paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur.
Merci. Et enfin, le texte de Jean, chapitre 15, versets 4 à 5. passage que nous avons vu. Je vais maintenant appeler notre pasteur.
Alléluia. Merci Seigneur pour ce temps béni. Je veux vraiment remercier chaque jeune, chacun de leurs responsables pour cette préparation, ces études qu'ils ont faites. Vous savez, nous méditons sur le sermon sur la montagne, nous prêchons aussi dessus, et le Seigneur nous conduit, et eux-mêmes ont eu leur temps d'études, et ce qu'ils vous ont partagé, c'est le résultat de leur temps d'études, et ils en sont chacun investis. Et j'aimerais terminer juste en disant, en nous rappelant cette parole que Jésus a prononcée dans Jean chapitre 15, et il le dit de cette façon-là: Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son Seigneur, mais je vous appelle ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que je vous ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi, je vous ai établi parce que je vous ai aimé, pour que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Amen. Alors, ce que je vous demande, au nom au Père, en mon nom, Alors, ce que vous demanderez au Père, en mon nom, il vous le donnera. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Amen. Amen, amen, amen. Et plus haut, il est dit, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Amen. L'amitié de Jésus, c'est une amitié particulière. Si toi, tu as un ami et tu dis, je vais être ton ami si tu fais ce que je te commande. Est-ce que vous pensez que ça va marcher, cette amitié-là? Ça va être difficile, hein? Mais l'amitié de Jésus est tout autre. L'amitié de Jésus est faite d'amour parce qu'il s'est investi pleinement, parce qu'il s'est donné à la croix pour nous et qu'il a choisi de le faire par amour pour chacun de nous. Amen. Et voilà maintenant qu'il nous dit que si on veut être son ami, il nous faut faire ce qu'il nous commande. Et il est dit dans la parole de Dieu que son joug est doux. Alléluia. Chers frères et sœurs, avec tout ce que nous avons entendu sur la convoitise, sur l'amour pour nos ennemis, sur le fait de porter du bon fruit, le Seigneur nous donne clairement les orientations. Si nous disons que nous appartenons au Seigneur, faisons ce qu'il nous commande. Et je vous assure qu'il veut ouvrir d'innombrables portes devant nous. Si nous sommes amis du Seigneur, si nous sommes amis du Saint-Esprit, écoutons sa voix. Et ce matin, nous avons été encouragés à faire attention à tout ce qui pourrait nous attirer et nous emmener loin de Dieu. À choisir d'aimer ceux qui nous font du tort. À choisir de nous investir pour eux. Et ô combien les jeunes l'ont dit, c'est difficile. Mais tout cela pour que nous puissions porter du bon fruit. Si vous êtes mes amis, faites ce que je vous commande. Seigneur veut interpeller chacun de nos cœurs en ce matin. Nous disons que Jésus est notre ami. Nous voulons de l'amitié de Jésus, nous voulons de l'amour de Jésus, nous voulons de la bénédiction de Jésus. Mais avons-nous fait le choix de dire, Seigneur, aujourd'hui, tu es non seulement mon sauveur, mais aussi mon Seigneur. Je veux que tu diriges ma vie. Je reconnais que tu es mort à la croix pour moi. Je choisis de tout lâcher, de tout abandonner. Je ne veux plus prendre le volant de ma vie, mais je veux te laisser prendre le volant de ma vie maintenant. C'est toi mon conducteur. Nous voulons penser à chaque jeune afin que tout ce qu'ils ont dit en ce matin, ils puissent continuer à le vivre, pour qu'ils puissent non seulement porter du bon fruit, mais être au bénéfice de la bénédiction de l'Éternel sur eux, pour toute leur vie. aussi pour nous, pour chacun de nous. Où en es-tu avec Jésus? Si Jésus en est ton ami, est-ce que tu fais ce qu'il te commande? Nous attendons beaucoup parfois du Seigneur, mais nous faisons très peu pour lui. Ce matin, le Seigneur est en train de nous parler. Et nous voulons laisser le Saint-Esprit passer, je veux prier pour chacun de nous en ce matin. Un jour, nous serons tous devant le trône du Seigneur. Et vous savez, nous ne pourrons pas arriver et devant ce trône, nous ne pourrons pas faire égrener toutes les bonnes actions que nous avons faites. Cela ne sera pas possible. Parce que nous sommes tous pécheurs et nous sommes destinés à l'enfer. Mais Christ est venu et il est mort à la croix pour nous. Et il est dit clairement que ceux qui lui appartiennent pourront passer devant ce trône. Et juste, c'est Jésus, c'est le sang de Jésus qui va être présenté. Alors Seigneur, accorde-nous la grâce de t'appartenir pleinement et d'exprimer pleinement qui tu es. Seigneur, je veux te prier pour chacun de nous. Merci pour ces jeunes, merci pour tout ce que tu leur as donné en ce matin et qu'ils puissent garder, nous l'avons dit, précieusement ce que tu leur as confié et que nous-mêmes nous soyons là comme pour prier pour eux, avec eux et que nous puissions vraiment leur donner tout le courage dont ils ont besoin pour affronter et combattre le bon combat de la foi. Qu'ils puissent choisir de t'appartenir, choisir de vivre avec toi, choisir de s'engager avec toi, et que tout cela puisse transparaître et être en bénédiction pour tous ceux qui les entourent. Et dans tout ce que nous avons pu partager autour de ta parole de Dieu qui fait autorité en ce matin, donne-nous nous-mêmes de rayonner pour ta gloire. Je veux penser à tous ceux qui peut-être n'ont pas encore fait un choix avec le Seigneur, n'ont pas encore pris une décision claire avec lui. Ce matin est un jour de grâce et tu peux le faire. Tu peux choisir de lui appartenir. Seigneur, que tu puisses nous conduire encore à travers ce sermon sur la montagne, que tu puisses encore continuer à nous parler, continuer à nous interpeller et que nous puissions grandir encore en foi et en maturité pour ta gloire. Dans le nom de Jésus.